rap.
Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis content de vous retrouver pour Culture Média. Au menu, vous le savez, tous les médias et toutes les formes de culture. Aujourd'hui, Il Miracolo, une série italienne sur Arte et un jeu vidéo d'horreur soft. Et oui, ça change tout. Vous retrouverez évidemment Hélène Manarino et son portrait inattendu aux alentours de 10h20. Bertrand Chamerois aussi, Eva Rock également. Nous sommes ensemble pour 2h en direct et vous pourrez évidemment podcaster l'émission ou la partie qui vous manque sur europe1.fr. Notre info média aujourd'hui, la chaîne Vice TV France, ou Vice, comme du Vice en français, lance plusieurs nouveautés que Romain Marcilli, son directeur général, va nous dévoiler. J'ai rien le droit de dire avant 9h20. Nos invités ensuite, c'est la une du Parisien aujourd'hui en France. Tout stocké de cuisine leur accroche. Top Chef, l'émission phare de M6 qui est de retour ce soir pour sa 12e saison. Nous recevrons le présentateur Stéphane Rothenberg et le chef triplement étoilé Paul Perret qui fait partie du jury évidemment. Enfin, Laurent Combalbert, c'est un ancien négociateur du RAID formé au FBI à Scotland Yard. Il publie son premier roman plus vrai que nature. Ça s'appelle Négo, c'est chez Kalman Levy. Il est maintenant négociateur professionnel aux quatre coins de la planète et je peux vous dire qu'il a du boulot puisqu'il y a chaque année plus de 100 000 enlèvements dans le monde. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Nous sommes là et bien là. Culture Média, c'est parti. Bonjour Luce Bernard.
Bonjour, quel accent italien, dis donc.
Je l'ai improvisé comme ça. Je savais pas trop. Vous l'avez fait dans ma fusil. C'est un peu comment Il Miracolo.
Ouais,
L'autre miracolo, c'est qu'on soit là. Parce que ce matin, au scooter, c'était moyen. J'ai dû poser le scooter dans la neige. Bonjour Antoine Janton.
Bonjour Philippe.
Ne racontons pas nos vies. En tout cas, je parle pour moi. Au sommaire, Antoine, de votre journal des médias.
Un départ surprise chez BFM. Une nouvelle présentatrice pour le grand oral de France 2. Et une rencontre, vous allez le voir, étonnante.
Mais d'abord, les audiences avec vous, Louise. Qu'ont regardé les Français hier soir?
Pas de grosse surprise. Comme la semaine dernière, c'est la série policière Alexandra L avec Julie Depardieu qui cartonne, même en rediffusion, 4 millions de téléspectateurs, 17% de part d'audience. Après, c'est TF1 et sa série américaine SWAT, 3 600 000 téléspectateurs, 15,5% d'audience. Et ensuite, c'est un joli score pour France 2, c'était le documentaire de la BBC, Une planète parfaite, dont nous a parlé Eva Rock, 3 millions de téléspectateurs, 12,9% de part d'audience.
Culture Média.
Et on démarre ce journal des médias avec justement Antoine un départ, celui d'une des figures de BFM TV.
Ruth El-Krieff, elle travaillait pour la chaîne d'info en continu depuis un peu plus de 15 ans, depuis sa création en réalité le 28 novembre 2005. C'est même elle qui était apparue à l'antenne en premier ce jour-là. Elle donc qui avait présenté le tout premier journal de BFM.
BFM TV, 18h, Ruth El-Krieff.
Bonsoir à tous et bienvenue sur la nouvelle chaîne de l'info que je suis très fière de lancer avec vous ce soir. Tout de suite, les titres à la une de BFM TV.
À la une donc, le départ de Ruth El-Krieff, en tout cas aujourd'hui, départ surprise, même si cela faisait plusieurs semaines que la journaliste n'était plus à l'antenne pour des raisons de santé, selon Le Parisien ce matin. Il a été annoncé ce départ hier dans un mail interne, un mail que nous nous sommes procuré. La direction de BFM TV dit « regretter mais respecter le choix de Ruth El-Krieff ». Elle salue également son parcours qu'elle qualifie de remarquable. Quant à la présentatrice, elle est aussi citée dans ce document, dans ce mail. « Une page se tourne », dit-elle, après avoir remercié ceux qui ont travaillé avec elle. Journaliste, technicien et maquilleuse.
Et est-ce qu'on sait pourquoi Ruth El-Krieff a choisi de quitter BFM ?
Eh bien, pas précisément. Le Parisien évoque ce matin le fait qu'elle avait été vexée de perdre son émission à 19h en semaine. Elle travaillerait par ailleurs sur une candidature à la présidence de Public Sénat, toujours selon Le Parisien. Quant à son interview hebdomadaire du samedi sur BFM, elle revient à celle qui en assurait l'intérim ces dernières semaines, Apolline de Malherbe, et ce jusqu'à la fin de la saison.
Et on connaît le nom de la nouvelle présentatrice du concours d'éloquence de France 2. Je dis ça parce qu'on sait que c'est une femme.
C'est Leïla Kaddour qui animera le Grand Oral, une information donnée par Pure Média. La journaliste qui présente le journal de 13h le week-end sur France 2 va donc succéder à Laurent Ruquier. Il avait animé les deux premières éditions du concours, mais cette année, il n'a pas le temps trop occupé. Cela dit, l'animateur devrait quand même faire partie du jury, avec à ses côtés, entre autres, Michel Bernier, Éric Orsena et Jean-Pascal Zadi. Le Grand Oral sera diffusé le mois prochain sur France 2. La date précise n'est pas encore connue.
Et puis le retour aujourd'hui d'un podcast d'Europe 1 Studio, Mon client et moi, c'est la saison 2.
5 nouveaux épisodes présents par Margot Lanuzel pour plonger dans la tête des avocats pénalistes, ces femmes et ces hommes qui défendent ceux qui sont accusés de crimes, avec une promesse, explorer cette relation avocat-client si particulière.
Pour vous, ils vont se souvenir d'un client qui les a bouleversés.
Il s'agit d'une auxiliaire de puériculture à qui il est reproché d'avoir causé la mort d'un bébé de 5 mois et demi. J'ai à l'époque une petite fille à peu près du même âge.
Ils vont vous raconter cette histoire qui a fait vaciller leurs convictions.
Comment vais-je pouvoir défendre ces gens que je combats par ailleurs? Voilà la question que m'y poserai.
Et même cet accusé qui leur a fait craindre pour leur vie.
J'ai 30 ans, je pèse à peine 60 kilos. Lui, c'est un type très, encore une fois, très athlétique.
Dans ces 5 épisodes, je vais vous emmener sur de nouveaux terrains.
Dans un endroit qui a un nom prédestiné qui s'appelle Mania l'Étrange.
Mais toujours dans l'intimité de celles et ceux qui défendent des criminels.
Le principe reste le même que dans la première saison. Dans chaque épisode, 2 histoires sur un même thème, 2 avocats qui y témoignent, avec pour cette deuxième saison les confidences de 2 ténors du barreau. Vous les avez peut-être reconnus hein, dans la bande-annonce qu'on vient d'entendre. Henri Leclerc et Martin Pradel. Un épisode de 30 minutes, donc à écouter chaque mercredi, dès aujourd'hui, et ce, sur toutes les plateformes.
J'avais adoré la saison 1, j'ai bien hâte d'écouter celle-ci.
D'où la saison 2. De nouvelles plaintes, on reste presque au chapitre de la justice, de nouvelles plaintes contre le producteur Gérard Louvain et son mari Daniel Moine.
4 plaintes pour viols et agressions sexuelles qui auraient été commises dans les années 80 et 90 sur des hommes parfois mineurs, c'est ce que révèle Le Monde. Le journal a recueilli plusieurs témoignages qui font suite à la plainte déposée début janvier par le neveu de Gérard Louvain. Plainte qui a entraîné l'ouverture d'une enquête pour viol sur mineur et complicité de viol sur mineur. Gérard Louvain et son mari démentent par la voix de leurs avocats toutes les accusations portées contre eux. Ils les qualifient d'opportunistes et parlent même de délations indécentes.
2 héros de fiction qui pourraient bientôt se retrouver.
Un détective et un cambrioleur, Sherlock Holmes, face à Lupin. C'est l'idée sur laquelle travaille actuellement le scénariste de la série Netflix, Lupin. On en a beaucoup parlé ici même. Ce scénariste, c'est George Kay. Il l'a dit au site britannique radiotimes.com. Il réfléchit à se faire rencontrer Hassan Diop, le Lupin de 2021, donc avec Sherlock Holmes, celui qui a été revisité dans une série à succès de la BBC il y a quelques années. Autrement dit, si on parle acteur, Omar Sy face à Benedict Cumberbatch.
Pas mal.
Sur le papier, effectivement, Louis, ça a de la gueule. On attend quand même de voir, car ces crossovers, il faut le dire aussi, hein, au cinéma notamment, ont souvent été décevants.
Et puis de la musique pour finir, Deezer lance une nouvelle playlist, une playlist un peu particulière.
Oui, si vous deviez choisir une chanson qui rappelle votre enfance, ce serait laquelle, Philippe?
Creedence Clearwater Revival.
Louise?
Ma préférence de Julien Clerc pour ma mère.
Julien Clerc qu'on recevra d'ailleurs dans 2 jours dans l'émission. Aucune de ces chansons ne se retrouve sur Deezer. En tout cas, cette question, quelle chanson rappelle votre enfance? Eh bien, Deezer l'a posée à plusieurs artistes. Ils y ont répondu et ils ont accepté de la réinterpréter à leur manière. Quelques exemples, Camille Lelouch chante La Boulette de Diams, Vita et Slimane reprennent Sous le vent de Céline Dion et Garou, Jérémy Frérot Voyage Voyage de Désirless. Quant à Camélia Jordana, à vous de reconnaître.
Once I had love and it was a guise. Soon turned out, had a heart of glass. Seemed like the real thing, only too fine. Much of mistress, lots of behind.
Heart of Glass, vous l'aviez?
Mais oui, bien sûr.
Il était Blondie. En transe, Philippe Mandel.
J'adorais, moi.
12 reprises sont d'ores et déjà disponibles sur Deezer. Donc, cette création originale très Madeleine de Proust s'appelle Souvenir d'enfance. Deezer, chez qui d'ailleurs, vous pouvez aussi écouter Europe 1 et les podcasts d'Europe 1 Studio.
Merci beaucoup, Louise Bernard. Merci beaucoup, Antoine Janton. À demain, en espérant que vous n'ayez pas repris la coupe de Desireless.
À demain.
À suivre dans notre infomédia du jour. La découverte en exclusivité de nouveaux programmes pour la chaîne originale Vice TV France. Nous en parlons avec Romain Marcilly, c'est le directeur général de la chaîne.
Europe 1, Culture Média. Philippe Vondel.
C'est l'une des chaînes de télévision les plus récentes et également les plus innovantes en France. Vice TV France lance 3 nouveaux programmes, dont un dès ce soir. Les 2 autres vont arriver dans le mois qui vient et vous allez les découvrir en exclusivité ce matin dans Culture Média. Bonjour Romain Marcilly.
Bonjour Philippe Vondel.
Vous êtes le directeur général de Vice TV France. C'est vous qui allez nous présenter ces 3 émissions. Voici la première. On entend le générique de Voyou, série documentaire de 4 épisodes qui démarre ce soir. Le premier épisode sera 22h, épisode qui avait déjà été diffusé en avant-première fin décembre. Qu'est-ce que ça raconte, Voyou ?
Voyou est un programme original donc, qui a été créé cette année, qui raconte les parcours, comme le nom l'indique, de voyous, qui raconte leur parcours de vie, leur rencontre avec le crime lorsque ça a eu lieu, ou avec le délit, selon les cas. Avec plusieurs profils très intéressants, François Troquins, Mouvement Souris, Tony Langui, donc des profils assez...
Il faut dire qu'ils sont, si vous donnez que leur nom, on ne comprend pas.
C'est des profils très connus dans le métier, donc qui se sont distingués par diverses œuvres variées, on va dire, qui vont du braquage aux différents trafics, au grand banditisme. Donc ce sont des grandes figures assez connues dans le milieu, mais qui ouais. racontent de manière très pédagogique et très personnelle et très intime à la fois leur parcours d'avant, leur vie d'avant, mais surtout leur vie d'après. Parce qu'ils se sont reconvertis. François Troquin, aujourd'hui, c'est un réalisateur.
Ouais.
Donc c'est un réalisateur très talentueux, et c'est ça qui est intéressant dans ses parcours.
C'est une série qui est incarnée par un jeune chauffeur de VTC, il s'appelle Saïd Ouli, il est passionné par ses anciens voyous, et lui dit avoir flirté avec la délinquance, et j'aime bien cette phrase, il dit « je me suis repris de justesse ». Voilà.
Oui.
Par rapport aux opinions, on reprend de justice. Alors, c'est un sujet qui a souvent été traité, évidemment, les voyous. Qu'est-ce qu'on voit dans cette émission ? Sur Vice TV, c'est souvent des contenus très, très différents, avec un pas de côté. Qu'est-ce qu'on voit chez vous qu'on ne voit pas ailleurs ?
Alors, je pense que chez nous, on essaye de vraiment, d'avant tout, mettre en avant l'authenticité. C'est-à-dire des témoignages très bruts, avec toujours une incarnation qui arrive à tisser un lien de confiance. Donc là, effectivement, c'est Douli, arrive à tisser ce lien de confiance avec ses différents personnages, qui permet à des témoignages très intimes, mais c'est un peu, je crois, le fil rouge de toute notre programmation. Ce qui est intéressant, c'est dans la manière dont ils racontent comment ils se sont réinventés. C'est vraiment ça la clé de l'émission par rapport au récit habituel de grand banditisme.
Alors ça se passe pas seulement dans un bureau, Saïd Ouli conduit ses invités sur des lieux qui ont compté dans leur vie. Exemple, dans le premier épisode, avec François Troquins, dont vous parliez, ce braqueur belge qui est devenu cinéaste. Et ils vont là où Troquins a grandi, dans la campagne wallonne. Ils vont aussi dans ses bureaux, ceux de sa société de production, qui sont situés dans un bâtiment très étonnant. Pour qui connaît son parcours, tendez bien l'oreille.
Tu sais où t'es, là ?
Ouais, j'ai une idée, là.
T'as une idée, un peu ?
Ouais, j'ai une... Ça pue le flic, ici.
Ah, ça pue le flic, parce qu'ils sont plus là.
Ouais.
Ah, pour la petite histoire, ma prod, elle se trouve dans un ancien bâtiment de la gendarmerie belge. Et donc là, t'es dans un bureau de flic
ouais.
où il y a des mecs qui ont été interrogés, comme je suis là. Et en fait, t'es malheureusement du mauvais côté, quoi. J'espère que ça te déplaît pas trop, parce que là, t'es plutôt dans la peau du flic et moi dans le mec qui se fait interroger.
Ah, tu veux pas qu'on change de place ?
Non, ça va, j'ai mis ma place.
T'es bien ?
Honnêtement, ouais. Tu vois, j'ai changé ma vie, mais j'ai pas changé de bord.
J'ai changé ma vie, mais j'ai pas changé de bord. Ça veut dire qu'il est toujours du côté des braqueurs, toujours du côté des voyous ?
Il faudrait lui poser la question, mais sentimentalement,
comment vous l'entendez, vous ?
Sentimentalement, oui. Après, lorsque dans ces deux épisodes qui lui sont consacrés, qui sont très très riches, il y a beaucoup de grandes anecdotes. Et par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'il raconte comment il a été pris, comment il raconte sa cavale. Il raconte, paradoxalement, le sentiment de liberté qu'il a pu avoir lorsqu'il était en cavale. Donc voilà, c'est assez particulier. Après, voilà, on se passe pas du tout sur un point de vue moral ni moralisateur. Ce qu'on essaie de comprendre, encore une fois, ce sont les parcours de vie.
Ouais.
Donc voilà, aucun jugement, juste d'écouter des anecdotes croustillantes avec ce vocabulaire des voyous un peu à la Audiard, souvent qu'on aime beaucoup.
En général, et puis il faut dire que quand une chaîne s'appelle Vice ou Vice, c'est difficile ensuite de faire la morale.
Oui, déjà, je pense que les médias, leur rôle, c'est pas de faire la morale.
Non, mais surtout vous.
Et surtout nous, après, le vice, le nom, à l'origine, c'est Voice of Montréal qui perd son haut.
Oui, voilà, on a tout bien compris.
Aujourd'hui, le vice, c'est ce qui aussi s'oppose à la pensée dominante. Et je crois que, comme l'a écrit tout au long de son œuvre Philippe Meret, dans l'empire du bien qui aujourd'hui nous écrase et écrase un peu tout, y compris parfois dans le paysage médiatique, c'est important d'avoir des voix un peu différentes.
Voilà, et puisque vous en parlez, Philippe Meret, c'est peu dire qu'il manque parfois.
Oui.
Les propos tenus à l'égard des policiers sont durs, on l'a entendu, on sent que Saïd Ouli et François Troquin ne les aiment pas, ne les portent pas dans leur cœur. Ça pue le flic même, disent-ils, on entend cette phrase. Est-ce que vous vous êtes demandé s'il fallait la garder ?
Là, c'est un extrait, bien sûr, mais si on prend l'ensemble de la série, il y a des propos qui sont très contradictoires et même parfois très bienveillants. On sait que les relations flics et voyous sont beaucoup plus complexes que ce qu'on a entendu là, et parfois aussi empreintes de bienveillance et de respect, on le sait.
Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que parfois, en voyant la série, vous avez dit ça, il faut couper, ça, il faut
non,
couper
c'est...
Est-ce que le patron que vous êtes doit valider une série aussi, entre guillemets, sulfureuse ?
Non, parce que voilà, je pense que le propos est équilibré et on évite globalement, c'est un peu l'idée de la chaîne, on est dans l'authenticité, donc on coupe très très peu. Sauf bien sûr lorsque la loi l'oblige.
Voilà, il y a une scène assez incroyable dans le deuxième épisode, encore avec François Troquin, c'est la reconstitution d'un braquage dans la rue. Ça a l'air totalement réaliste, on croit que c'est un braquage. Comment ça s'est passé ? Est-ce que vous aviez prévenu le voisinage ?
Oui, tout avait été fait, bien sûr, dans les règles. C'était intéressant de voir comment un ancien braqueur, aujourd'hui en tant que réalisateur, filmait et organisait, tel un balai, en fait, un braquage. Tout est fait dans les règles, y compris la police était prévenue.
Alors, on disait pas de morale sur Vice TV. Quand même, le titre complet de cette série, c'est un peu moral. En tout cas, ça finit bien. Le titre, c'est Voyous, des histoires qui finissent bien.
c'est plus accrocheur que les histoires qui finissent mal, ou c'est, vous vouliez contrebalancer?
Oui, tout à fait, on voulait contrebalancer, enfin, pas de moraline, après qu'il y ait un peu de, qu'il y ait des beaux messages, des messages de transmission et d'espoir, ça oui, mais c'est pas la moraline qui nous écrase et qui vient de l'empire du bien, comme on le disait.
Voilà, ce qui vous intéresse, c'est la transformation, le parcours de vie.
Oui, la transmission, je pense qu'aujourd'hui on a vraiment besoin dans les médias, ce rôle de transmission qui est vraiment attendu par nos publics, notamment la jeunesse, il y a une grande attente là-dessus, et on essaye modestement, à notre rôle, de transmettre.
Alors, à l'opposé de Voyou, deux nouveaux programmes maintenant, deux programmes beaucoup plus introspectif. Le premier, c'est la quatrième saison inédite d'une émission déjà bien installée sur Vice TV. Il ne faut pas la confondre avec En Thérapie, la série qui vient de commencer sur Arte. Comment s'appelle votre émission à vous, Romain Marcilli?
Nous, elle s'appelle Thérapie, qui est l'adaptation française de Thérapiste. Et il se trouve que la série remarquable d'Arte a un peu piqué le nom. Ouais. Mais nous, elle s'appelle Thérapie. Ça fait la quatrième saison. Donc, vous voyez, on n'a pas attendu. L'enjeu de la santé mentale, il est capital chez Vice. C'est un sillon qu'on creuse, une problématique qu'on creuse depuis plusieurs années.
Alors, vous avez donné le contexte, la santé mentale. Qu'est-ce qu'on voit? C'est quoi le principe de l'émission?
Donc le principe de l'émission, ce sont des personnalités diverses et variées. Dans les premières saisons, des rappeurs, là, on a vraiment élargi, qui rencontrent, qui se livrent, qui dévoilent beaucoup de choses de leur vie et de leur parcours à un psychanalyste. Ouais. C'est ça la différence par rapport à des émissions qu'il y a pu avoir comme dans le passé, comme Le Divan. Là, on est vraiment dans l'authenticité, c'est-à-dire c'est Fernando de Amorim, qui est un psychanalyste très réputé sur la place de Paris, qui accueille des personnalités diverses et variées. Franck Gastambide, Pierre Ménès, Suzanne, Ladji Doucouré, Clara Morgan, Fusati, Hichon, je livre les noms, Guillaume, ouais, Sanchez, j'ai livré les noms de cette nouvelle saison, donc vraiment un casting très varié, et c'est permettre de découvrir des personnes charismatiques sous un angle de la santé mentale qu'on ne connaît pas toujours.
Vous parlez de la chanteuse Suzanne, elle a les yeux embués à la fin de l'émission, elle résume bien le principe de cette émission justement.
Ça m'a un peu coûté de parler de tout ça, mais en même temps je pense que ça fait du bien aussi parfois. Ça faisait longtemps que je m'étais pas laissée aller un peu à... Je suis toujours dans l'ultra-contrôle. Bah du coup, là, l'ultra-contrôle, là, on n'y est plus du tout. Mais c'est bien. Ça fait du bien aussi, parfois, de se montrer nu. Sans toujours un costume, sans toujours devoir enfiler quelque chose, du make-up, du ci, du ça. Être naturelle.
Elle n'est pas nue, évidemment, mais pourquoi ne pas avoir poussé la chose jusqu'au bout, ne pas avoir allongé vos invités sur un divan? Là, ils sont assis.
Oui, parce qu'on ne veut pas forcément mettre en scène. Tous les psychanalystes ne reçoivent pas sur un divan, donc on la joue de manière sobre, sans en faire des tonnes. Là, effectivement, elle raconte dans cette émission toutes les souffrances pour arriver là où elle est arrivée. C'est intéressant.
Mais aussi, vous faites de la télévision, donc de l'image. C'était peut-être aussi pour vous différencier de l'émission Le Divan, présentée, créée par Henri Chapier, puis reprise par Marc-Olivier Fogiel.
Tout à fait. Et sauf que voilà, ces deux personnalités n'étaient pas psychanalystes. Là, c'est vraiment la différence. C'est-à-dire qu'on on ne surjoue pas. C'est des émissions de qualité, bien sûr. Mais là, on est vraiment sur un angle beaucoup plus précis et pointu. En termes d'entretien et non pas d'interview.
Et vous n'aviez pas une troisième nouveauté à annoncer? On marque une pause. Romain Marcilli, le directeur général de Vice TV France, dans un instant. À tout de suite.
Europe 1, Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
En compagnie de Romain Marcilli, c'est le directeur général de Vice TV France. Vous êtes venu nous annoncer trois nouveautés. Voici la troisième et la dernière, là encore, exclue dans Culture Média, une toute nouvelle émission.
Oui, toute nouvelle édition, un format original Vice dont on est fier, qui s'appelle Mirror.
Mirror comme un miroir.
Mirror comme un miroir, exactement. L'idée était de confronter des personnalités très diverses, on va y revenir, à leurs archives. Alors pas les archives forcément les plus connues, mais des archives qui ne sont jamais anecdotiques, mais qui en disent beaucoup de leur parcours, des ressorts de leur engagement. C'est ça un peu le fil rouge de l'émission. Pourquoi vous êtes-vous engagé? Qu'est-ce qui vous a mené à créer cette œuvre, qu'elle soit politique, artistique ou autre?
Et il faut raconter aussi le dispositif visuel.
Un dispositif visuel qui, je pense, est assez impressionnant et assez esthétique. Nous, c'est très important. On essaie de raconter le monde comme il est, mais toujours garder un style et un esthétisme. C'est une question de respect à la fois pour les invités, mais encore plus pour nos téléspectateurs. Donc, l'émission s'est tournée dans un hangar. On va dire les choses telles qu'elles sont. Et il y avait un mur d'archives auquel l'invité faisait face, avec une question qui était posée sans voix off, donc d'une manière ultra simple, ultra authentique, ultra brute.
Ouais.
L'invité lit la question, il répond, ça lui permet vraiment un parcours, enfin vraiment une réponse très très immersive. Et tout le dispositif est très immersif, aussi bien pour l'invité que pour tous les spectateurs. On se sent englobé dans un mur d'images, ouais, et l'invité au milieu.
Oui, c'est pas seulement comme la boîte à questions toute blanche de Canal.
Non.
C'est beaucoup plus
visuellement, ça, c'est pas dégueu. Donc on voit vraiment un beau dispositif, et puis surtout pris dans un mur d'images, un invité face à leurs œuvres, face aux premières archives, et parfois, c'est très souvent le cas même, ils connaissaient les images, mais ça faisait depuis très longtemps qu'ils ne les avaient pas vues, et parfois ils ne les avaient même jamais vues. Donc par exemple dans le casting, peut-être qu'on va en parler.
Mais... J'ai parlé du casting.
Oui.
voudrais qu'on entende un extrait.
Avec plaisir. On
a parlé de la mise en image, on va dire un mot du fond. L'invité peut dire alors des choses qu'il a rarement dites, voire jamais. C'est le cas, par exemple, de l'avocat Richard Malka. Vous lui montrez l'interview qu'il avait donnée à la fin du procès des attentats de janvier 2015, après sa plaidoirie. Voici ce qu'il dit, Richard Malka.
J'ai jamais pu regarder cette intervention, en fait, à la fin de ma plaidoirie. J'ai du mal à me regarder parce que là, je suis en lock. Je suis épuisé physiquement, psychologiquement, moralement. C'est un procès qui est pour moi remué évidemment beaucoup de choses. La pression était colossale. Je suis arrivé en béquille parce que mon hernie discale s'est réveillée. Et puis, c'est juste après ma plaidoirie que moi, j'ai mal vécu. Je sais qu'elle a été, elle a eu un retentissement et j'ai fini par me convaincre que ça ne devait pas être si mal. Mais pour moi, c'est un des pires souvenirs de ma carrière. J'ai eu l'impression pendant une heure et quart de passer complètement à côté des choses, de l'audience, j'ai eu l'impression de foirer, quoi.
C'est évidemment le procès Charlie Hypercacher. J'ai eu l'impression de foirer, dit Richard Malka. Je n'avais jamais entendu l'avocat dire ces mots. C'est ce que vous cherchez dans cette émission Mirror, des confidences inédites de vos invités.
Tout à fait. Sans aucun voyeurisme, c'est une histoire de comprendre comment ils ont vécu ces moments, comment ils ont nourri leur parcours. Et c'est un moment très fort de l'émission, effectivement, celui que vous venez de mentionner.
9 numéros sont prévus pour Mirror pour cette saison. Qui sont les invités, en plus de Richard Malka, évidemment?
Alors nous avons eu le plaisir de recevoir François Hollande, une émission très intéressante où il revient sur les ressorts de son engagement politique et voit des images assez anciennes de la Corrèze à son mandat récent avec les images sous la pluie, il revient beaucoup sur le temps, etc.
Ça allait être ma question, vous lui passez aussi des images désagréables?
Tout à fait, bien
pas
sûr.
Pas seulement des images à sa
gloire. Non, c'est, le but n'est pas, Michel Drucker, qui, le but c'est aussi de confronter parfois l'invité à certaines de ses contradictions, ou à certaines de ses échecs, ou à certaines de ses difficultés.
Pardonnez-moi, je ne l'ai pas vu, j'ai trop envie de savoir qu'est-ce qu'il dit quand il est dégoulinant sous la pluie et cette image désastreuse qui a fait le tour du monde.
Bon, faut voir l'émission. Je ne vais pas vous spoiler, c'est le 24 février à 21h. Non, il raconte qu'il fallait se mouiller, que lui, ces images-là sur l'île de Sein, ce fameux discours qu'on lui montre, il disait que pour lui, c'était totalement réfléchi, même si beaucoup de ses conseils avaient dit « prends un parapluie », il avait dit « j'y vais parce qu'il fallait se mouiller
voilà, ». Au sens propre du terme. Qui d'autre?
Alors nous avons un très beau double numéro, vraiment magnifique, très poétique, avec Oxmo Puccino, qui se livre, je pense, comme assez rarement, voire comme jamais. Nous avons Caroline Fourest, Delphine Horviller, un numéro que j'apprécie énormément aussi, avec Bertrand Burgala, qui vraiment raconte de manière très touchante les ressorts de sa création, ses inspirations, des Beach Boys aux Kinks, ouais. Et puis son rapport au succès. On a la chanteuse Ize, on a le streamer Sardoche, aussi très intéressant, 1 million de followers sur Twitch, donc ouais. Des bases énormes, mais des gens qui ne sont pas forcément connus de toutes les audiences. Donc on essaye d'avoir un plateau très, très varié.
Sardoche, c'est un joueur qui diffuse en direct ses parties. Oui. C'est aussi pour ça que vous l'avez pris, pour agréger les communautés et amener du monde chez vous.
Oui, agréger les audiences, essayer de mélanger un peu les genres.
Est-ce que quelqu'un comme François Hollande, qu'on ne peut pas comparer à ses invités tout aussi prestigieux qu'il soit, qui a été président de la République du 5e pays du monde, est-ce qu'il a fixé des conditions pour venir?
Non. C'était très, très, très libre. Il y a eu une relation de confiance. Donc il n'y a pas eu de problème par rapport à ça.
Ce sont deux émissions d'introspection, ces nouvelles émissions Mirror Therapy, dispositif très intimiste. Vous n'avez pas peur que ça effraie les jeunes dans ce contexte de situation d'enfermement?
Non, justement, je pensais aussi dans l'air du temps. On a été beaucoup face à nous-mêmes pendant ces périodes de confinement. On a également fait un très beau documentaire qui s'appelle Census, où on a filmé les jeunes pendant le confinement, novembre-décembre, partout en France, Nice, Chartres, Paris, Bordeaux, Lille, qui est un très beau documentaire qui est toujours disponible en replay sur ma canal, où on essaie genre de comprendre leur rapport au confinement, leur besoin de liberté, parce que la jeunesse, on ne va pas la résumer en un mot, elle est très diverse, très polarisée, très parfois archipélisée, mais en tout cas, il y a quand même des choses qui reviennent souvent, la volonté de liberté, la volonté de responsabilité, c'est aussi quelque chose qu'on entend beaucoup. Et cette période-là a permis cette introspection. Et finalement, ces deux programmes-là, bien que très différents, Mirror et Thérapie, vont dans ce sens, et dans le sens de comprendre les invités et leurs messages. Ainsi.
Est-ce que vous avez cassé votre tirelire pour ces 3 émissions? Combien ça coûte des émissions comme celle-ci?
Non, ne parlons pas d'argent.
Est-ce que ça se compare avec le budget d'une émission télé? Ou est-ce que vous avez un modèle économique totalement différent?
Non, c'est tout à fait de la télé. Donc on est à 100% là-dessus. C'est une dimension digitale, le site que tout le monde connaît. Ouais. Mais ça, la déclinaison de l'identité de la marque à la télé met des moyens et des exigences. Et je pense que ça se verra aussi à l'image de la télé. Et toutes ces images-là, quand on est distribué en exclusivité en France par Canal, et lorsqu'une grande partie de notre audience est en replay sur MyCanal, on doit avoir des critères d'exigence très, très élevés, forme et fond.
On peut vous voir sur le site ou sur MyCanal. Et nulle part ailleurs, si je puis me permettre, c'est une galaxie Vice TV. Est-ce que ces formats, vous allez les exporter sur les autres Vice TV aux États-Unis, au Canada et aussi à d'autres chaînes?
Alors Mirror, Cocorico, c'est un format français, donc je pense que lorsque les Anglais et les Américains, dans les tout prochains jours, parce qu'on vient de finir le montage, vont voir ça, je crois qu'ils vont pouvoir le reprendre. Et on a déjà eu beaucoup de marques d'intérêt là-dessus. Thérapie, c'est plutôt nous qui avons pris un format américain. Donc les idées circulent dans les deux sens, ce qui est positif.
D'accord. Merci beaucoup Romain Marcilli.
Merci à vous.
Vous êtes le directeur général de Vice TV France, chaîne, comme vous l'avez dit, archipelisée. Voyou, le premier épisode, c'est ce soir à 22h. Mirror, dans deux semaines, à partir du 24 février, ce sera à 20h10, et puis le même horaire pour la saison 4 de Thérapie. J'ai dit 20h10, c'est 21h10. Et puis le même horaire pour la saison 4 de Thérapie, il faudra attendre un petit peu plus. Le lancement le 15 mars. Merci encore Romain Marcilli. Dans un instant, le chef 3 étoiles Paul Perret et le présentateur Stéphane Rothenberg. De quelle émission? Mais de Top Chef, bien sûr. Ça démarre ce soir, la saison 12, sur M6. À tout de suite.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média,
Philippe Vandel.
Bonjour Stéphane Rothenberg.
Bonjour Philippe Vandel.
Présentateur emblématique de M6, plusieurs émissions, notamment Pékin Express. Mais là, on va parler de votre actualité immédiate. Ce soir, 21h sur M6, Top Chef, et la saison 12 qui démarre. Avec nous également Paul Perret, bonjour.
Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour,
vous êtes à distance, Paul, où êtes-vous? Vous êtes à Shanghai?
Alors, pas du tout, là je suis à Paris et je suis à Paris depuis le mois de septembre.
Oui, il ne peut pas rentrer.
Vous êtes assigné à résidence.
Je suis assigné à résidence, je suis cantonné, je refais un jeu de mots qu'on m'a fait récemment, c'est pas moi qui l'ai inventé.
Voilà. Vous êtes cantonné comme le riz, je viens de le comprendre.
Ça y est.
Vous avez trois restaurants à Shanghai, dont un 3 étoiles, considéré comme un chef, sinon le chef le plus innovant de votre génération. Et vous êtes dans l'émission Top Chef depuis seulement la saison dernière. Vous aviez pris la place de Jean-François Piège. Vous connaissez, Paul Perret, les audiences de la saison 11 qui vient de s'écouler?
Alors, je ne sais pas si je connais les audiences exactement, mais je sais que ça s'est bien passé.
C'était un test.
Voilà, oui.
Stéphane, vous les connaissez?
Non, je sais qu'on a fait des records depuis...
Ne faites pas plonger.
Non, je voulais voir. Je vous dire, on peut classer les gens qui font de la télé en deux sortes. Il y a ceux qui connaissent les audiences et ceux qui ne les connaissent pas. Il n'y a pas de jugement de valeur.
Non, absolument. Alors là, vous me posez une colle, Philippe, parce que je sais qu'on a fait des très gros scores.
Meilleure saison depuis 2013. 3,473 millions, c'est l'audience moyenne. Il y a l'effet confinement, mais également... Également, en part de marché, vous avez monté. Donc, comme toutes les chaînes montent, si vous montez parmi ceux qui montent, c'est que vous avez réellement monté.
Grâce à Paul Perret.
D'où cette saison 12, on va lui demander. Saison 12 qui démarre ce soir. Bonne annonce.
On n'a jamais fait ça en 12 ans de Top Chef. Cette année, il faut que votre créativité, elle soit là.
Je vais vous demander de cuisiner avec un grain de riz.
Certains de vos plats ont plus de 300 ingrédients.
Les feux d'artifice dans la bouche.
Tant qu'à faire quelque chose pour un ouf, autant faire un truc de ouf. Taré.
Je trouve ça plutôt génial.
C'est un plat intelligent.
Je vais leur demander la recette après.
Mercredi 10 février, début de la nouvelle saison de Top Chef sur M6.
Stéphane Rothenberg, vous le savez, une des grandes difficultés des marques fortes, c'est de se renouveler.
Oui.
Saison 12, quoi de neuf dans les plats ou dans le ou les dispositifs?
Oui, alors c'est vrai qu'on change pas 80%, on va dire 70% de l'émission, parce que c'est vrai qu'elle marche, on va pas tout déstabiliser. Mais chaque année, il faut renouveler. On part du principe, et on le voit, il y a 10 anciens candidats étoilés, 2 double étoilés. Donc les candidats sont très bons. Alors on pousse. Et cette année, comme les restaurants dans le monde entier sont fermés, on a pu inviter les chefs les plus dingues, les plus créatifs du monde, puisqu'ils étaient disponibles. Malheureusement, leurs restaurants sont fermés. Et donc, on l'a entendu un peu, Eston Blumenthal, on a entendu, il y a d'autres choses, il y a Kei Kobayashi, alors lui il est à Paris, mais c'est un chef japonais. On a invité en chef invité les plus dingues, ceux qui vont pousser les candidats dans l'exercice culinaire le plus fou. Voilà.
Alors, ce que j'ai vu, c'est complètement dingue. Il y a Guy Savoie, première fois qu'il vient depuis 12 ans.
Oui.
Il leur a demandé de faire des soupes.
Oui, alors.
Comme à la cantine.
Oui, alors ça, on va dire, c'est presque plus classique. Guy, c'est une institution, il nous fallait aussi. Il nous faut les grandes légendes de la cuisine. Lui, ça faisait 12 ans qu'il n'était pas venu. Ses équipes l'ont poussé, hein. Pourquoi chef, vous venez pas dans Top Chef? Alors, il est venu.
Non, là, il a bien fait d'écouter les équipes. Et puis, il y a un chef extraordinaire, il s'appelle Eston Blumenthal, il est anglais. Ouais. C'est l'un des créateurs de la cuisine moléculaire, le premier à avoir utilisé l'azote liquide. Il vous fait goûter un plat avec un coussin qui flotte en lévitation, c'est complètement dingue. Plat qui comporte celui-ci pas moins de 100 ingrédients. Et il a imaginé une épreuve pour les candidats, c'est de l'anglais, le food pairing.
Oui.
Explication.
Chef, quelle est leur épreuve?
Le challenge aujourd'hui, c'est food pairing. C'est l'association impossible.
Roquefort chocolat, banane persil, fraise olive ou encore asperge réglisse. Sur le papier, ces produits n'ont rien à faire ensemble. Et pourtant, il est scientifiquement prouvé que ces associations peuvent donner de très grands plats aux candidats d'être à la hauteur du défi.
Alors, moi j'ai vu les images, quand tout le monde goûte, évidemment, ça a l'air délicieux. Mais je sais pas, je sais aussi que c'est de la télévision. En vrai, c'était comment, Paul Perret? C'était vraiment bon, parce que chocolat et roquefort, par exemple, on dirait un bizutage d'école de commerce.
Alors non, mais les associations sur le principe du food pairing fonctionnent bien. D'ailleurs, c'est assez intéressant ce principe d'association moléculaire qui permet comme ça d'imaginer des associations qui ne sont pas évidentes au début.
Ouais.
Mais la réalité de la cuisine, elle va au-delà de tout ça. C'est qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est d'avoir sa propre sensibilité, sa propre culture, et puis après de faire des associations nouvelles. Après,
j'ai compris,
je n'ai pas goûté le plat en lévitation. Le plat en lévitation, on n'a pas eu le droit de le goûter. Donc, je ne peux pas en parler, mais j'imagine que ce que fait Eston, c'est toujours très intéressant, c'est toujours très poussé, et ça définit un petit peu ce qui va se faire derrière, donc c'est toujours...
Non mais en même temps, vous n'avez pas le droit, vous êtes très diplomate, Paul Perret, vous n'avez pas le droit de dire du mal de vos collègues, mais moi je demandais à Stéphane Rottenberg...
Non mais parce que je n'en pense que du bien de mes collègues cuisiniers...
Attendez, mais je sais, mais Stéphane Rottenberg, j'allais dire un gros mot, mais fraises et olives...
Oui, mais Eston Blumenthal, au départ, il a cherché les éléments chimiques qui prouvent que c'est compatible.
Ça.
Donc voilà, et c'est vrai que ça marche. En fait, au départ, la chimie le prouve. Ensuite, il faut être capable d'avoir un talent de sensibilité pour que ça marche. Mais c'est vrai qu'il est un peu barré, Eston Blumenthal.
Ouais.
Voilà, mais alors on peut ne pas adhérer à cette folie, mais c'est l'un des chefs invités sur 40 épreuves. Attention, il a 3 étoiles. Hein.
Ouais,
compris. C'est pas rigolo. Hein.
Et voilà. Non, mais c'est pas lui qui a fait les recettes, il les a fait faire aux autres, je
oui,
peux vous dire.
Mais son expérience a prouvé que chimiquement, ça marche. Et donc, il a lancé un défi aux candidats. Je peux vous dire qu'ils n'en emmenaient pas large, les candidats.
Ouais.
Parce que même si on vous dit, vous inquiétez pas, ça marche, il faut être capable de le prouver dans la recette.
Ensuite, il y a ce chef espagnol, il s'appelle André León. Il arrive à cuire des langoustines. J'ai halluciné en voyant ça. J'ai repassé la séquence. Il leur verse dessus de l'eau salée froide. Il vous fait toucher, c'est froid. Il verse sur les langoustines qui sont posées comme ça à plat. Elles cuisent à 170 degrés. Il vous fait toucher, c'est chaud. J'ai pas compris. Ensuite, il rajoute du vinaigre. Il y en a pour seulement 3 à 4 minutes de cuisson. Racontez-nous, Paul Perret, comment ça fonctionne? Phénomène quasiment magique.
Pourquoi vous me posez des questions auxquelles je ne peux pas répondre?
Parce que vous êtes cuisinier.
Alors, c'est une des rares choses. Là, c'est de la recherche un petit peu fondamentale avec un cuisinier qui est derrière, mais il y a eu quand même une recherche qui est vraiment une recherche très intéressante. C'est une réaction exogène, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la chaleur se déclenche au contact de l'air. Et c'est vrai que ça, c'est très étonnant, même pour moi, de le voir fonctionner comme ça avec la cristallisation de cette eau sur les petites. Je crois que c'est on avait des gambas, on avait des très belles gambas. Ça, c'est assez magique. C'est la magie de la cuisine, mais c'est ça la cuisine. La cuisine, c'est une forme de chimie poétique, c'est une forme de magie.
Là, c'est
ça,
vraiment,
c'est très intéressant.
Je dois dire que c'est absolument splendide. Et à un moment donné, vous dites, Paul Perret, quand il y a une bonne idée, je suis furieux parce que j'aurais pu l'avoir. Je me dis que j'aurais pu l'avoir. En l'occurrence, c'est quelle idée que vous auriez aimé avoir?
Ah là, je ne veux pas tout dévoiler, mais c'est vrai que dans une de nos épreuves, qui est très très conceptuelle, alors c'est pas facile quand on dit conceptuel, comme ça on sait pas trop ce que ça veut dire, mais c'est vrai que derrière, il y a le goût fatalement qui doit être là, sinon ça veut rien dire de conceptualiser quoi que ce soit. Mais on a un des plats qui va être une espèce de gradation du goût, comme ça, qui est extrêmement surprenant, extrêmement simple, et qui nous a tous scotché. On a presque défini ce plat comme le plat de la saison. Et c'est la puissance, à la limite, d'une cuisine qui peut être conceptuelle à un moment donné, parce que au-delà du goût, qui est très important, il nous laisse un souvenir qui est quand même quelque chose de très important aussi dans la perception du goût.
Moi, j'adore ce moment où des mômes bluffent des grands chefs. Parce que nos candidats, ils ont 15 ans de moins, hein, parfois beaucoup plus. Et c'est vrai qu'avoir comme ça des juniors bluffer Paul Perret et les autres, hein, c'est des moments assez incroyables.
Et non, les juniors, moi je les ai vus à l'œuvre, on dirait déjà pros.
C'est
marque une pause, vous restez avec nous, Stéphane Rottenberg et Paul Perret et ses 3 étoiles. À tout de suite.
11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie du chef 3 étoiles, Paul Perret et Stéphane Rothenberg, le présentateur de Top Chef,
qui
la saison 12 qui démarre ce soir. Il y a une nouvelle épreuve cette saison, ou plutôt une nouvelle version de votre séquence bien connue, la guerre des chefs. Le confinement est passé par là. C'est une épreuve de click and collect. Ouais. Alors j'avoue, j'ai pas tout vu, j'ai pas vu toutes les émissions évidemment, j'ai pas vu cette séquence. Et avant que je demande à Paul Perret quelles sont les différences en matière culinaire, d'abord question pour vous, Stéphane Rothenberg, pour le click and collect. Est-ce qu'il y a une épreuve de conduite de scooter en sens interdit?
C'est vrai que non,
on parce a que fait c'est des... la base de la livraison
oui,
quand
c'est
même.
Vrai, c'est vrai. Non, c'est non, vrai. On a fait des livraisons totalement légales, mais c'est vrai que c'était important. Voilà, parce que c'est une vraie contrainte. Hein, Paul Perret, pour parler mieux que moi, un plat qu'on sert en restaurant et un plat qu'on sert chez les gens, c'est pas du tout le même.
Vous m'avez fait ma question. Quelle est la différence? Comment on cuisine Paul Perret pour le click and collect?
Alors le click and collect, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut travailler, mais c'est là que ça devient intéressant, c'est que la cuisine est intéressante. Moi je me souviens l'année dernière, quand au début du confinement, j'étais retourné à Shanghai, j'avais envoyé à tout le monde une photo de moi sur un scooter en train de faire des livraisons, ce qui était une grande première à Shanghai, tout le monde, ça fait rigoler tout le monde, et à l'époque je disais be resourceful. Et je suis content de voir que tous mes collègues derrière s'y sont mis, mais s'y sont mis avec bonheur et intérêt, parce que tout est intéressant, et c'est ça qui est magique dans la cuisine. On peut se concentrer sur un sandwich et voir que c'est pas facile à faire, pas facile à emballer, pas facile à délivrer, les températures, les textures, il y a tellement de paramètres dans la moindre petite recette. Mettre une tranche de jambon dans une assiette, c'est compliqué.
Ah bon?
Ça, j'y arrivais, alors me gâchez pas. Ça, c'est du Paul Perret pur jus.
Non mais blague à part, qu'est-ce qu'on peut faire en click and collect? Vous pouvez pas refaire vos plats signatures, vous êtes obligé d'adapter, vous faites pas des sandwichs non plus.
Alors en click and collect, ça dépend ce qu'on illustre, fatalement on va
mais
pas forcément
illustrer. Mais là dans l'émission, qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce que vous avez demandé aux candidats?
Alors, ce qu'on a demandé aux candidats dans cette émission-là, c'est justement de penser un restaurant avec des plats qui seront servis au restaurant, mais qui aussi peuvent être servis en click and collect. Je crois que c'était bien de refléter, sans parler de on voulait pas entendre ce qui était l'ambiance actuelle, c'était pas ça, mais de refléter ce qui se passe en ce moment. Et ça demande beaucoup de réflexion, justement, parce que il faut quand même avoir des plats qui se tiennent, qui soient intéressants. Mais on va prendre un exemple très simple. On peut faire un très très bon bœuf bourguignon, qui peut se servir dans un très bon restaurant, et qui est un très bon plat en click and collect. Voilà. Ça suppose que ça limite le champ des possibles, et la réalité de la créativité, c'est de limiter le champ des possibles. C'est là que ça devient intéressant, parce qu'on peut se concentrer sur un peu moins de choses et à ce moment-là forcer un petit peu plus le jus de cerveau.
Stéphane Rothenberg, qu'est-ce qui vous a le plus impressionné sur ce tournage?
Alors, on était dans une ambiance particulière parce que les restaurants étaient fermés. Et donc, normalement, dans Top Chef, quand on tourne, mes chefs, les chefs invités, etc., ils ont à la fois leurs affaires en même temps, et à peine le tournage est terminé, qu'ils retournent dans leur restaurant où ils appellent, etc. Et là, ils étaient dans une sorte de stress différent d'une activité et de l'imprévisibilité de l'avenir. Donc il y avait une ambiance un peu particulière. J'ai vu l'inquiétude chez eux. J'ai vu aussi la détermination à s'en sortir, à trouver des solutions. C'est vraiment c'était pour moi, c'est l'ambiance un peu particulière. J'ai vu des chefs déstabilisés. Alors beaucoup sont médiatiques, donc parler aux autorités, essayer de défendre leur corporation qui est en difficulté, et à la fois avec l'espoir et la volonté de se battre. Moi ces chefs me bluffent, franchement. Les mômes qui ont aussi des restaurants comme mes chefs, ceux que j'accompagne, et j'ai vraiment vécu de l'intérieur cette période très bizarre où tout est fermé et où il faut se battre, il faut trouver des solutions. Et leur résilience et leur détermination me bluffent.
Paul Perret, avant qu'on parle de ce tournage spécifiquement, quel retour de l'émission, puisque c'était votre première saison la saison passée, quel retour de l'émission avez-vous eu, si tant est qu'il y en ait eu un, ou qu'il y en ait eu plusieurs, dans votre restaurant à Shanghai, Ultraviolet il s'appelle, c'est bien ça?
Oui, un de mes restaurants, c'est Ultraviolet. Donc celui qui a 3 étoiles, c'est Ultraviolet. C'est quelque chose d'un petit peu spécial, Ultraviolet. Je vais pas parler d'Ultraviolet en long, en large et en travers, mais j'ai d'autres restaurants. J'ai Mr. Mrs. Bun, j'ai Pollux, qui sont des restaurants beaucoup plus, on va dire, consensuels, qui sont une brasserie, un autre café. Ouais. Alors, on a des retours de la communauté française. Il faut savoir que moi, c'est pas tout à fait la même chose. Je suis quand même installé à Shanghai.
Bien sûr.
En plus, c'est une année qui est très, très spéciale, puisque finalement, très peu de gens ont voyagé. Donc, on a eu peut-être des retours sur la communauté française de Shanghai. Alors, moi, j'étais surpris, par contre, sur les retours, c'est le retour des très jeunes. Moi, j'ai pas l'habitude de ça, mais c'est vrai que des gosses de 4 ans à 10 ans, tout d'un coup, considèrent à un moment donné que vous êtes quelqu'un d'intéressant.
Mais
ça,
oui.
Je trouve ça formidable au travers de Top Chef.
Vous les avez suivis avec votre tranche de jambon dans l'assiette, j'imagine. Et là-bas, à Shanghai, juste un mot de géopolitique, tout est ouvert à Shanghai.
Alors, tout est ouvert à Shanghai, et c'est vrai que la crise a été maîtrisée à partir du mois de mai. Mais le moindre cas, la moindre résurgence, comme ça, il y a eu 4 cas il y a 2 semaines, les impacts sont immédiats. Il n'y a pas besoin d'avoir des mesures gouvernementales. C'est le public qui s'auto-censure. On a 80% de baisse d'activité immédiate. Oui. Et ça peut durer 1-2 semaines. Là, la situation a été maîtrisée. Et 4 cas seulement. Dans une ville comme Shanghai, c'est vraiment pas beaucoup, quoi.
Alors, vous l'avez dit, vous êtes arrivé en France courant septembre pour tourner Top Chef. Plutôt, c'est ça que vous avez dit. C'est que vous n'avez pas le droit de repartir en Chine, où pourtant vous êtes résident. Vous avez donc géré vos restaurants à distance. Et là, ça y est, si je suis bien informé, vous avez eu votre visa. Vous repartez quand ?
Alors, je n'ai pas encore le visa, c'est sous réserve, mais je pense que je vais l'avoir la semaine prochaine. Et donc, après le temps d'organiser, il y a peu de vols, etc. Je pense que d'ici la fin du mois, je devrais être reparti à Shanghai. Mais en tout cas, pour le moment, je m'occupe un petit peu avec un projet que j'ai avec le crayon ici. Donc, de toute façon, je suis pas inactif. Ouais. Et j'ai de très, très belles équipes à Shanghai qui sont avec moi dans la partie production et de tout ce qu'on fait tous les jours. Je pense que les équipes sont là pour bien maintenir le cap. Je me fais pas trop de soucis de ce côté-là.
Paul Perret, je suis content de vous avoir à ce micro parce que j'aurais vérifié une info qui avait été donnée la saison passée pour vous présenter dans Top Chef. L'émission disait de vous que vous aviez un restaurant à Shanghai dont un seul chauffeur connaît l'adresse. C'est vraiment ça ? Il y a un seul chauffeur dans tout Shanghai qui connaît l'adresse de votre resto. Et qu'est-ce qui se passe si le gars il est en panne d'essence ? Vous n'avez plus de clients ?
Ouais. Ça pourrait. Alors il faut savoir qu'il y a le chauffeur
vrai.
Et puis il y a nous aussi parce qu'il faut quand même qu'on aille travailler au restaurant.
Non mais il y a pas. Non mais c'est vrai, il y a un seul chauffeur qui a votre adresse.
Non mais la réalité c'est qu'au départ il travaillait qui est un tout petit restaurant qui est seulement 10 couverts par soirée, donc c'est pas beaucoup, c'est pas quelque chose qui est publié, on ne publie jamais l'adresse d'Ultraviolet, il n'y a pas de numéro de téléphone, etc. Donc les réservations se font au travers d'un site internet, il y a 4 mois de réservation à l'avance, etc. Et donc c'est vrai que c'est pas le principe du restaurant dans lequel on se décide le soir pour venir et essayer de savoir s'il y a une place qui est libre, parce que c'est quelque chose qui est spécial. Voilà, je veux pas trop développer sur le principe d'Ultraviolet, je l'ai développé dans plein d'autres choses, mais c'est un peu une exception, c'est pas la même chose que les autres restaurants que j'ai à Shanghai qui sont beaucoup plus classiques.
Vous avez vu la une de Télécapsat ce matin, vous êtes en couverture avec les chefs, avec ce titre Top Chef, la guerre des étoiles. J'ai pas dit le nom de vos 3 collègues, Philippe Etchebest, Hélène Darroze et Michel Saran. Et il y a un sondage dans lequel on apprend que Philippe Etchebest est le chef préféré des Français, 32% d'opinion favorable, devant Cyril Lignac, 22,1%. Vous-même, vous êtes 7e, c'est pas mal pour un gars qui débarque dans le paysage médiatique.
C'est incroyable.
Comment vous prenez ce genre de sondage ?
Oh, c'est marrant, c'est un petit peu le reflet de ce que pensent les gens au travers de la communication. D'ailleurs, c'est pas forcément au travers de nos prouesses de cuisinier, mais c'est toujours très intéressant. Puis je suis pas surpris, pour sortir quelques fois avec Philippe, c'est presque impossible. Il monopolise une attention incroyable.
Philippe Etchebest, ouais.
Avec Philippe Etchebest. Ouais. Et j'ai rarement vu ça, même avec des très très grands chefs, avec qui j'ai quelquefois l'habitude d'aller déjeuner ou des choses comme ça. C'est un phénomène social au niveau de Philippe Etchebest.
Fin à Stéphane Rottenberg.
Oui.
Voilà, je
voulais voilà.
Non, je dois dire qu'en plus, il y a les grands duels et il y a Top Chef, les meilleurs moments. Il y a 2 émissions.
Avec François-Régis Gaudry, c'est super. On met en duel amical les anciens candidats. Et c'est vrai que ça marche très fort. L'année dernière, on avait commencé. François-Régis a un talent, un palais pour déguster et nous faire partager ce qu'il ressent. C'est génial. François-Régis Gaudry, c'est juste après Top Chef.
Merci beaucoup, Stéphane Rottenberg. Merci beaucoup, Paul Perret, d'avoir été avec nous. Culture Média continue, évidemment. Il y aura le rappel des titres. Et puis Eva Rock pour son zapping du lendemain. Bertrand Chameroy pour son écran de veille, tiens je spoil, consacré à amour, gloire et beauté. Notre invité c'est un ancien négociateur du Raid qui raconte d'histoires terribles dans Nego, c'est sa première fiction, et puis dans Les Indispensables, un jeu vidéo et une série italienne. À tout de suite.
Europe 1, Culture Média.